C'est ça. Il est sevré, mais on dirait qu'il est toujours aussi vocal. T'sais. Il se laisse toujours aussi entendre que quand il était jeune bébé. Maître Bellemare, dans les dossiers judiciaires, on va certainement suivre ça, vous et moi, en 2023. Un qui m'a pas nécessairement surpris, c'est le retour de Justin Bourque. Qui est Justin Bourque? Eh bien, c'est le gars qui a tué trois policiers de la GRC. Il en a blessé deux autres à Moncton, au Nouveau-Brunswick. C'est survenu, ça, en 2014. Et lui, il fait appel de sa condamnation à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 75 ans. Moi, je pense que pour avoir tué trois policiers et blessé deux autres personnes à Moncton, eh bien, 75 ans, c'était très peu comme sentence. Eh bien, il a été inspiré, lui, son avocat, a été inspiré de l'affaire Bissonnette et on considère que c'est une sentence cruelle pour un pauvre tueur de personnes, 75 ans, parce que ça y laisse pas une possibilité de se réinsérer dans la société. Donc, lui a été inspiré et j'imagine qu'il va avoir, comme l'autre, là, une réduction de sentence.
Ouais, Bissonnette, ça a été 6 pour 1. Bourque, ça va probablement être 3 pour 1. C'est-à-dire qu'il paye une fois pour trois assassinats. C'est comme si il avait tué juste une personne alors qu'il en a tué trois. Mais alors, bienvenue au Canada. C'est comme ça que ça marche ici. C'est comme ça que les tribunaux gère le code criminel, administre le code criminel. Pour faire un petit historique pour les auditeurs, là. Monsieur Bourque, lui, il a été impliqué dans un assassinat, un triple assassinat de policiers. Il a pas tué n'importe qui, là. Il a tué quand même des représentants des forces de l'ordre le 4 juin 2014. Alors, il est encore en prison actuellement. Lui, s'est sorti en 2039, c'est-à-dire au bout de 25 ans. Et depuis sa condamnation en 2014, qui est la plus importante condamnation depuis l'abolition de la peine de mort au Canada. La peine de mort a été abolie en 1976 au profit d'un crime prémédité, premier degré, 25 ans, avant d'être éligible à une libération conditionnelle. Alors, le gouvernement Harper, en 2011, a modifié le code criminel en disant, ben, si tu tues trois personnes, tu vas être admissible à une peine de 3 fois 25 ans. Alors, le calcul était simple. Si tu en tues trois, ben, tu vas payer pour trois, tu ne paieras pas pour un, puis on va devoir additionner les peines plutôt que les suivre concurremment. C'est-à-dire, si tu ne feras pas trois fois de la prison pendant 25 ans en même temps, mais tu vas faire trois peines de 25 ans additionnées consécutives, ce qui fait 75. Alors, cet article-là du Code criminel a été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême il y a quelques années dans l'affaire Bissonnette. Inconstitutionnel, ça veut dire que, selon la Cour suprême, l'article qui permettait d'additionner les peines dans les cas de meurtre multiple a été déclaré contraire à la Charte des droits et libertés qui interdit des peines cruelles et inusitées. Alors, la Cour suprême a dit: c'est cruel et inusité de ne pas permettre à un individu de demander une libération conditionnelle avant 75 ans. Dans le cas de Bissonnette, c'était 40 ans il avait été condamné à 40 ans par le juge Huot de la Cour supérieure. Et la Cour d'appel avait réduit ça à 25 ans, Cour suprême 25 ans. Alors, tout ça pour dire qu'on en est à 25 ans aujourd'hui. Et bon, moi, je vivais très bien avec le 75 ans de Bourque, le 45 ans le 40 ans de Bissonnette, mais c'est pas moi qui décide, c'est pas toi non plus, Yann, c'est pas les auditeurs, c'est la Cour suprême. La Cour suprême a dit c'est 25 ans maximum. Alors, notre ami Bourque, lui, qui est condamné à 75 ans depuis 2014, bien, il a dû prendre ça avec un grand sourire et il a demandé à son avocat de porter un appel, donc de contester devant la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick la décision de la Cour supérieure qui le condamna à 75 ans.
Et il va l'obtenir. Et il va l'obtenir son 25 ans minimum.
Ben là, écoute, c'est sûr que là, il est techniquement hors délai, c'est-à-dire qu'il n'a pas contesté le jugement de la Cour supérieure du Nouveau-Brunswick devant la Cour d'appel, mais ça devient un élément, à mon avis, tout à fait insignifiant, dans la mesure où le plus haut tribunal du Canada, dont la décision s'applique partout au Canada, parce que le code criminel, c'est canadien, c'est pas juste au Québec, c'est dans toutes les provinces la même chose. Alors, le jugement de la Cour suprême s'applique partout au Canada, à tous les crimes multiples commis par quelque individu que ce soit. Alors, le délai, ça devient un élément marginal, parce qu'évidemment, Bourque ne pouvait pas savoir que la Cour suprême allait, quelques années plus tard, déclarer illégal, inconstitutionnel, une disposition du Code criminel qui l'avait condamné à 75 ans. Maintenant qu'il le sait, il fait une démarche en cour d'appel, à mon avis, parce que sa peine est inconstitutionnelle. Sa peine de 75 ans est contraire à la Charte, qui est la loi suprême du Canada. Alors, d'après moi, c'est une technicalité, puis il va certainement l'obtenir. Ouais. Malheureusement, moi, j'étais d'accord avec cette disposition-là du gouvernement Harper. Je trouvais ça normal qu'un individu puisse, pas automatiquement, là, le juge n'était pas obligé d'additionner les peines, mais il pouvait le faire. Ça donnait au juge le pouvoir d'additionner les peines de 25 ans. Dans le cas de Bissonnette, la preuve en est que le juge Watt a donné 40. Il y avait la possibilité d'aller jusqu'à 150 parce qu'il y a eu 6 meurtres prémédités dans le cas de Bissonnette. Alors, la Cour supérieure pouvait aller jusqu'à 150 ans. Le juge Watt a donné 40 ans, mais ce n'est peut-être pas encore assez. La Cour d'appel a ramené ça à 25 ans. Puis la Cour suprême pense que c'est un jugement unanime, même de 9 juges sur 9. Alors, il n'y a pas bien de doute dans mon esprit que c'est l'état du droit actuellement. Qu'on soit d'accord ou non, il faut vivre avec.
Bien, cela dit, tu sais, sur quoi on peut se rabattre, c'est le fameux 25 ans minimum. Et par la suite, une fois qu'il aura purgé son 25 ans, bien là, il devra passer devant un comité pour prouver qu'il a fait des efforts nécessaires pour se réhabiliter.
Ouais.
Donc, il peut peut-être en faire 30, 32, ce qui est juste désolant, c'est de savoir que ce gars-là va revoir le jour.
C'est ça, il est admissible à une libération conditionnelle après 25 ans. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être automatique. Il faut qu'il soit bon garçon. Il faut qu'il montre qu'il y a des perspectives de réhabilitation qui sont intéressantes, qui sont réalistes. Mais à partir de 25 ans, donc en 2039, boucle, je ne sais pas quel âge qu'il a, mais il est quand même pas très vieux, je pense. En tout cas, les photos que j'en ai vues, ça m'apparaissait être un gars d'autour d'une quarantaine d'années. Alors, j'ai l'impression que pour lui, ça veut dire qu'il va pouvoir sortir de son vivant, vraisemblablement, ce qui aurait bien sûr pas été le cas s'il avait été tenu de purger ce que le premier juge avait imposé, c'est-à-dire 75 ans. Là. C'est certain qu'il a remis ses jours en dedans.
Je t'allais vérifier, il y avait 24 ans en 2014, donc à ça, on ajoute 7, 8, 9, à ça, on
à 25, ça veut dire qu'il va sortir, il n'aura même pas 50 ans. Fait que c'est quand même, à 49 ans, t'as encore une vie, là.
Oui, exact. Donc, souhaitons que le comité qui reçoive cet individu-là après 25 ans décide qu'il n'y a pas assez fait d'efforts en dedans. OK, il y aura d'autres, il y aura certainement d'autres procès qui vont nous intéresser en 2023. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'enlèvement du PDG des restaurants Cora, des individus des individus qui avaient enlevé le PDG. L'individu en cause, c'est Paul Zeidan, 53 ans, qui fait face à une querelle d'accusation en lien avec des crimes qui remontent à quand même assez loin, là, mars 2017. C'est long avant que ça passe en cours, toutes ces histoires-là. Puis c'est assez rare qu'on voit des cas d'enlèvement et de tentatives d'extorsion. Là. En fait, il voulait demander de l'argent à la mère de l'individu, là, qui est la propriétaire des restaurants Cora. C'est Mme Tsouflidis, de mémoire. Et donc, on aura à suivre ça. Mais tu sais, au Brésil, je peux comprendre, là, ça arrive régulièrement, des cas d'enlèvement puis de tentatives d'extorsion. Au Québec, c'est un peu plus rare, là.
Ouais, c'est ça. Puis, écoute, c'est difficile de comparer les crimes, hein, parce que des fois, on se dit, bon, une agression sexuelle sur un enfant, un assassinat d'enfant, c'est à peu près ce qu'il y a de pire. Moi, je pense, je continue de penser que c'est à peu près ce qu'il y a de pire après le meurtre, là. Mais un cas d'enlèvement, c'est quand même pas rien, là. Deux gars qui rentrent chez vous cagoulés puis qui partent avec toi, là, pour te dire une affaire, c'est assez. Juste le fait d'enlever ou un enfant ou un adulte, c'est quand même extrêmement grave.
Ouais.
L'extorsion, mais c'est que. L'enlèvement, c'est une chose, c'est un crime. L'extorsion, c'est un autre crime. C'est-à-dire que une fois que tu as la possession de l'individu et que tu en as le contrôle, qu'il est séquestré, bien, tu demandes de l'argent. Ça, c'est de l'extorsion. C'est demander de l'argent en échange pour récupérer le bien qui a été illégalement acquis ou approprié. Alors, écoute, c'est sûr que s'il est condamné pour ça, c'est odieux, là, c'est absolument incroyable. Moi, je pense que tout individu a droit à sa sécurité, là, puis un enlèvement, là, c'est un des pires crimes, à mon avis, dans le code criminel. Là.
Puis, tu sais, ils ont choisi quand même la victime, là. Ils venaient d'une famille qui était en moyen. Je peux vous dire que dans mon cas, si quelqu'un m'enlève, il n'y aura pas grand-chose.
mais vous le dire. Regarde, je sais pas. Moi, je pense que quand quelqu'un est enlevé, peu importe qui, j'imagine que ça prend un GoFundMe assez important Ça prend de l'argent, puis je pense que les gens se cotisent pour essayer d'aller chercher le plus d'argent possible.
Ouais.
Mais c'est pas toujours des gens extrêmement connus. Des fois, c'est juste pour obtenir une rançon. Des fois, c'est juste pour punir quelqu'un d'autre, tu sais. Punir, si tu enlèves un enfant, tu vas punir les parents. Si tu en veux aux parents, c'est pas, tu sais. Charles Lindbergh avait perdu son fils, là. Son fils avait été enlevé. Il avait jamais été retrouvé, je pense.
Ouais.
Alors, c'est pas d'hier qu'il y en a des enlèvements, mais j'espère que dans ce cas-ci, même si c'est exceptionnel, ça va être une peine importante parce que c'est tout à fait inacceptable.
Autre dossier que je surveille, puis je vais vous expliquer pourquoi je vais surveiller ce dossier-là. C'est un gars qui est accusé de meurtre, mais 22 ans plus tard. On parle de Marc-André Grenon, 47 ans. Lui, on lui a greffé une accusation de meurtre prémédité dans le dossier de Guylaine Potvin, qui a été retrouvée morte dans son logement de Jonquière en avril 2000. Puis il y a une accusation aussi de tentative de meurtre pour une agression qui était survenue en juillet 2000 à Sainte-Foy. Puis pourquoi je vais suivre ça avec une grande attention, c'est qu'on ne sait toujours pas comment les policiers de la Sûreté du Québec ont réussi à le trouver avec certaines preuves d'ADN. Donc, est-ce que, encore une fois, je pense qu'on en avait jasé, vous et moi, un individu dans le secteur de Toronto qui s'était fait prendre parce que sa sœur avait envoyé son ADN chez Ancestry.com, là, les fameuses annonces qu'on voit à télé, là, tu sais, d'où viennent vos ancêtres. Là. Puis là, ben, les policiers sont branchés avec cette banque d'ADN-là, puis c'est des ressources incroyables là, quand même pour ces policiers-là. Puis ils avaient réussi à tuer ce tueur-là. Puis on parle de crimes, d'agressions sexuelles là, qui dataient de plusieurs années. Donc, est-ce que dans le cas de Marc-André Grenon, c'est la même chose? Quelqu'un de sa famille qui aurait fait affaire avec Ancestry.com, puis on a réussi à le relier au meurtre. Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette affaire-là.
Moi, j'ai l'impression que c'est la victime qui a survécu qui est en cause là-dedans, parce que il semble que Grenon serait responsable des deux agressions, une mortelle, l'autre qui a failli être mortelle, mais qui ne l'a pas été. Et j'ai l'impression, je ne sais pas, là, c'est les policiers qui le savent, c'est au procès qu'on va savoir ça, si... Évidemment, il plaide non coupable, parce que s'il plaide coupable, il n'y aura pas de procès, puis il y a bien des choses qu'on ne saura jamais. Mais s'il plaide pas coupable, il va y avoir un procès, puis là, la preuve va être étalée. On va savoir d'où ça vient, parce que l'ADN, c'est un cheveu, c'est un morceau de peau, c'est une goutte de salive, c'est une larme, c'est une goutte de sang, c'est de la crasse ou des cellules de peau morte en dessous des ongles quand les victimes se défendent. Alors, ça prend pas grand-chose. Et j'ai l'impression que c'est la deuxième victime qui a peut-être aussi contribué à le reconnaître par des photos.
Ah.
Il y a peut-être une forme d'identification, parce que la deuxième, je pense qu'il l'avait laissée pour morte, mais elle était pas décédée.
Effectivement.
Alors, c'est peut-être un ensemble de facteurs de cette nature-là, mais c'est sûr qu'une victime qui survit, ça aide beaucoup. Ça aide à identifier au moins la personne. Si on prend des photos d'époque, probablement qu'elle est en mesure de l'identifier. Puis c'est peut-être ça qui fait que ça a convaincu le DPCP là, d'avoir de porter des accusations. Il y a probablement aussi des éléments d'ADN qui ont été retrouvés sur le corps des deux victimes qui ont permis de retracer l'individu. Difficile à dire, mais écoute, pour pouvoir déposer des accusations de nature criminelle de cette importance-là, il faut que la couronne ait un dossier très solide parce qu'il faut qu'elle soit convaincue moralement d'obtenir une condamnation. Tu ne peux pas porter des accusations criminelles de cette gravité-là sans avoir un dossier béton en bon québécois. Ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'il va être condamné, mais on peut penser là, qu'ils ont fait une enquête sérieuse et qu'ils ont des éléments, pas juste des suppositions, mais ils ont des éléments matériels de preuve qui sont relativement incontestables.
Donc, dans le dossier de Marc-André Grenon, on n'a toujours pas de date qui a été fixée pour son procès, mais ce qu'on sait, c'est que la preuve devrait être divulguée d'ici le printemps. Autre chose, l'ex-député Harold Lebel, qui va recevoir sa sentence pour agression, lui a été reconnu coupable par un jury en novembre dernier. Il va recevoir sa sentence quelque part en 2023. Et lui, il s'expose carrément à la prison. Là. Donc, le chef d'agression sexuelle étant passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement, je ne sais pas, il pourrait avoir comment. Est-ce qu'on va lui donner le maximum? C'est quand même un gars qui était, qui faisait partie du système. Est-ce qu'on va être plus sévère pour lui à cause du fait que, justement, c'était un député et il faisait partie du système? Ou Parce que ça paraît très mal de donner une petite sentence bonbon, Maître Bellemare, là.
C'est ça. Non, mais probablement que le juge va tenir compte de tout ça, mais j'ai l'impression que le DPCP, son avocat, vont arriver avec une proposition de peine. Probablement que c'est le cas. Parce que c'est certain qu'à partir du moment où le jugement est tombé, c'est un jury qui a décidé qu'il était coupable. C'est bien difficile à défaire. Parce que la seule façon de faire casser un verdict de jury comme ça unanime par la Cour d'appel, la plupart du temps, à moins que la décision du jury soit complètement ridicule, non fondée, déraisonnable, ça avait été le cas notamment dans l'affaire Benoît Brou il y a plusieurs années,
ouais.
Où la Cour d'appel avait cassé le verdict en disant que c'était absurde de condamner un individu à partir d'un témoin oculaire 9 ans après les faits. Simplement. Donc, la Cour d'appel avait cassé le verdict du jury, mais c'est très rare que ça arrive. La plupart du temps, quand le jury a été bien saisi de l'affaire et qu'il décide que tu es coupable, ça veut dire que ça l'est. Puis un des rares cas où la Cour d'appel peut intervenir, c'est si le juge a mal instruit le jury. C'est-à-dire que le juge a donné des mauvaises instructions en disant « ben voici ce que le code criminel prévoit », puis là, le jury part tout croche dans sa décision. Dans l'affaire Turcotte, c'est ce qui avait été fait d'ailleurs, parce que le juge avait mal instruit, dans l'affaire Guy Turcotte, le juge avait mal instruit le jury sur la notion de non-responsable criminellement. Alors, c'est des cas où la Cour d'appel va intervenir, mais dans ce cas-ci, son avocat a jugé que le juge avait fait un bon travail, le juge Francoeur. Il a également considéré que le jury avait rendu une décision qui était correcte, c'est-à-dire qui était raisonnable, pas nécessairement celle qu'il aurait souhaité, mais qui était raisonnable. Alors, il est coupable, il y a un procès. Et là, probablement qu'ils vont arriver avec une peine commune. Je serais très surpris qu'il y ait un litige, que les avocats ne s'entendent pas sur la peine. Maintenant, ce sera quoi? Je ne sais pas. Vraisemblablement une peine de prison. Hein.
Est-ce que ça peut être un facteur atténuant compte tenu du fait que l'homme était bien en vue, était connu? C'est quand même un député du Parti québécois qui était là pendant 8 ans à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils vont dire qu'il était très sévèrement condamné dans les médias? Ça peut-tu faire partie? Ça peut-tu être considéré comme un facteur atténuant?
Il y a ce point-là. Souvent, la cour va considérer cet élément-là comme une forme de punition publique du fait que l'individu a été largement médiatisé. Ça lui a causé des problèmes d'être accusé, mais en même temps, comme tu disais tantôt, quand tu es en autorité, quand tu es une personnalité publique, tu es le représentant d'un comté électoral de 60 000 personnes, député à l'Assemblée nationale, tu dois montrer l'exemple, un peu comme les juges, un peu comme les diplomates, un peu comme les dirigeants publics, quels qu'ils soient, puis normalement les policiers. La jurisprudence est plutôt à l'effet qu'il faut que ce soit considéré pas nécessairement à l'avantage du condamné, mais comme étant un élément qui va permettre au juge d'en arriver à une peine plus sévère. On verra bien, mais je ne sais pas comment les avocats vont se parler, mais j'ai l'impression qu'ils se parlent déjà. Et normalement, ce genre de dossier-là devrait faire l'objet d'une proposition commune.
Ouais, ce que je trouve quand même assez incroyable dans le dossier d'Harold Lebel puis de son choix là, d'être condamné par ses pairs plutôt que par un juge, j'ai l'impression que ça a joué un peu dans la balance. Parce qu'avec le juge, suffit juste de mettre un doute dans la tête du juge et le juge aurait déclaré Harold Lebel non coupable. Mais dans le dossier où tu te fais juger par tes pairs, c'est-à-dire qu'il y avait un jury, ce qui est assez rare dans ce type de dossier-là, là, il s'est fait... Il semble qu'il n'a pas été bien conseillé par son avocat. Là. Cela dit, il a été déclaré coupable. Donc, il est coupable d'agression sexuelle. Il a agressé une jeune femme qui était son amie au moment des faits et il l'hébergeait chez lui pendant 2 nuits. Et il en aurait profité pour rentrer ses doigts à l'intérieur de ses fesses là, pendant la nuit. Donc, il est coupable,
mais... Des attouchements, puis ça a été... Ça a duré longtemps, ça a duré une nuit complète. D'après ce qu'on en sait, aux policiers, spontanément, quand les policiers se sont présentés chez lui, il aurait dit qu'il ne se souvenait de rien, ou à peu près. Et puis, au procès, il se souvenait de tout, puis il était très clair, puis il affirmait dur comme fer qu'il n'avait jamais fait ça. Alors, qu'il n'avait jamais fait certaines choses, en tout cas. Alors, moi, je n'étais pas au procès, je n'ai pas assisté à tout, là. Mais ce que j'en ai reçu par la couverture médiatique, c'est qu'il y avait eu des contradictions. J'ai l'impression que c'est ce qui l'a coulé, là. Parce que faut toujours être cohérent. Si tu fais des déclarations aux polices et qu'elles sont libres et volontaires, qu'elles sont recevables en preuve, ben là, normalement, ton témoignage doit être cohérent. Tu ne peux pas te souvenir, à moins qu'il y ait des explications scientifiques qui soient fournies par des psychiatres, des neurologues, qui peuvent expliquer des fois que ton souvenir peut être altéré dans les moments qui suivent immédiatement l'événement criminel. Par rapport à plusieurs années après, tu peux reconstituer certains souvenirs. La mémoire, c'est compliqué. Il reste que, a priori, on avait l'impression qu'il y avait une contradiction fondamentale. J'ai l'impression que c'est ce que le jury a eu de la misère à accepter. Puis pour gagner au tribunal, il faut être cru. C'est une règle d'or. Si tu veux gagner, il faut que tu sois cru. Si tu n'es pas cru, tu ne gagneras pas. Peu importe la cour, peu importe les accusations, peu importe les circonstances. Mais cette affaire-là va évidemment faire parler d'elle encore en 2023 parce que, tu le sais, il y avait eu une réouverture d'enquête devant le juge Francoeur à Rimouski dans l'affaire Lebel où on avait su que la victime avait accepté de participer à un documentaire télévisé sur les ondes de Québécois. Je ne sais pas si tu avais vu ça, mais ça voudrait dire que moi, j'ai l'impression qu'ils attendent que la peine soit prononcée. Une fois que le dossier va être clos, j'ai l'impression qu'on va avoir des documentaires assez savoureux sur les ondes de TVA et de LCN en 2023 parce qu'elle l'avait admis qu'elle avait accepté de participer à un documentaire là-dessus. J'ai l'impression qu'ils vont faire un espèce de documentaire sur tout le processus de dénonciation et d'agression sexuelle pour essayer de faire le point sur la condition des victimes d'agression sexuelle au Québec, un peu comme ça avait été le cas avec les documentaires qui avaient suivi la condamnation de Guy Cloutier quand Nathalie Simard l'avait dénoncé. Là. On s'attend à ça cette année. Là.
Maître Bellemare, je vous pose une question un peu salope. Là. À l'Assemblée nationale, il a été là pendant 8 ans, ce qui fait qu'il est éligible à sa rente de l'Assemblée nationale. Compte tenu de la gravité de ses gestes, est-ce qu'on pourrait pas lui retirer sa rente? Parce qu'il n'a pas fait honneur à sa profession de député. Là.
Je ne penserais pas. Je pense que c'est une loi. Je ne sais pas. Là, honnêtement, moi, je n'ai pas été là assez longtemps. J'étais là un an seulement. Mais je sais que quand j'y étais, moi, en 2003-2004, ça prenait 5 ans. Donc, ça prenait presque un mandat.
C'est deux mandats.
Normalement, c'est 4 ans.
Ouais.
Deux mandats, c'est peut-être rendu 2 mandats aujourd'hui. Mais en tout cas, dans le temps, c'était 5 ans.
C'est 2 mandats.
Non, je ne pense pas que ça le rendrait inéligible. Pour le rendre inéligible, il faudrait que l'élection soit annulée. Parce que dans les faits, techniquement, il a effectivement siégé. Et au moment où il a été accusé, il était député, tu as raison, effectivement, il était député, parce que c'est après le dépôt des accusations qu'il a décidé en 2022, je crois. Je pense qu'il était accusé en 2021, parce que le jugement est tombé en 2022, ouais. Et il a décidé de ne pas se représenter pour un troisième mandat en octobre 2022. Ça veut dire qu'il était effectivement député au moment où le crime a été commis.
Exact.
Ouais. Mais je ne pense pas que ça le rende inéligible. Ça mériterait d'être vérifié, mais je ne penserais pas.
Fait qu'il va avoir sa petite rente pour service rendu à l'Assemblée nationale tout en étant un individu qui a agressé sexuellement une jeune femme. Ça veut dire qu'un député qui tue quelqu'un pour avoir sa rente pareil, là. C'est fou pareil.
Ben, on a vu des cas d'alcool au volant.
Ouais.
On a vu des cas d'alcool au volant. C'est un crime en vertu du code criminel. C'est peut-être pas de la même nature qu'une agression sexuelle. C'est pas le même genre d'agression, mais c'est pas le même genre de crime. Mais moi, j'ai jamais entendu dire qu'un député avait perdu sa rente parce qu'il avait commis un crime. Et je pense pas que ce soit le cas pour M. Lebel non plus. Je pense pas qu'il devrait s'inquiéter de ça.
Ben, peut-être que c'est la société qui devrait s'inquiéter du fait qu'on continue à rémunérer un individu qui a agressé sexuellement les jeunes femmes. Là, ça, c'est hallucinant. Ouais. Sinon, dans les autres dossiers, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Je fais juste un tour très rapidement. Là. Pour ce qui est de 2023, je vais mettre ça de côté. Vous m'avez envoyé ça ce matin, là, le monstre québécois Jacques Vachon qui a fait jaser dans le temps comme pas possible. On parle d'un délinquant sexuel là, qui avait des gros problèmes qui semble toujours en avoir. Aujourd'hui, Jacques Vachon a 77 ans et il n'a pas respecté ses conditions de remise en liberté. Ce qu'on peut présumer, c'est qu'il aurait été en compagnie de gens de moins de 16 ans, puis alors qu'il n'en avait pas le droit. Donc, il devra retourner en prison.
Oui, bien, Jacques Vachon, c'est Saint-Just de Bretonnière. Hein? C'est pas loin de Montmagny.
Oui.
Moi, ce qui me fascine, c'est que moi, j'ai été un peu impliqué dans ce dossier-là, en ce sens que j'ai représenté une de ses victimes à M. Vachon devant l'IVAC, devant le tribunal administratif du Québec. Je lui avais fait obtenir une rente d'invalidité à vie. C'est une dame qui demeure précisément dans la région là-bas. Et moi, ce qui m'horripile, c'est que la Commission des libérations conditionnelles du Canada, qui gère ça, aurait accepté qu'il retourne à Saint-Just, là où précisément les crimes ont été commis. Oui. Puis là, c'est attache ta tuque, là. C'est des crimes épouvantables qui ont impliqué à peu près 5 victimes, peut-être plus. Il y en a une parmi celles-là qui s'est suicidée pendant le procès, quand la police a commencé à enquêter, qui a été accusée. Dans la foulée de tout ça, ça a été tellement pénible pour elle qu'elle s'est suicidée pendant les procédures. Il a été condamné, je pense, à 23 ans de pénitencier, ce qui est quand même immense. Et la Cour d'appel a réduit ça à 18 ans. Bon. Alors, comment se fait-il que la Commission des libérations conditionnelles du Canada, parce que comme tenu que c'est une peine de plus de 2 ans, ça devient la Commission fédérale et non pas la Commission des libérations conditionnelles du Québec, s'occupe de ça parce qu'on sait qu'au Québec, on a aussi une Commission des libérations conditionnelles. Comment se fait-il que cette commission-là accepte que Jacques Vachon retourne dans la région où les crimes ont été commis? Parce que là, c'est pas rien, là. Tu t'en vas à la pharmacie, à Montmagny, puis tu risques de le croiser,
exact.
Même s'il a 77 ans. Alors, juste ça, là, ça devrait faire en sorte que cet individu-là ne puisse pas revenir, peut-être même dans toute la région de la Côte-du-Sud, dans toute la région de Montmagny, Cap-Saint-Ignace. Il est très connu là-bas. Puis là, il est retourné, puis ça a l'air qu'il fait le commerce de véhicules automobiles. Moi, je me dis, pour les victimes, c'est totalement méprisant. Puis ça doit être très anxiogène aussi, parce que de savoir que tu peux croiser ton agresseur à la pharmacie ou au dépanneur, n'importe quand, et qui continue d'exercer des fonctions commerciales, ça doit être assez angoissant, merci.
Mais là, il est à 5 mois de sa libération. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il retourne en dedans parce qu'il aurait côtoyé des gens qui avaient moins de 16 ans, mais dans 5 mois, il va être libre, il va pouvoir retourner là-bas. Là.
Éventuellement, si ça est à moins que la Commission des libérations conditionnelles du Canada décide que ce n'est pas approprié. Mais le fait qu'il ait été en contact avec des jeunes de moins de 16 ans d'une quelconque façon, il a violé les conditions de libération conditionnelle, donc il retourne en dedans. Mais c'est pas parce que c'est la question de savoir s'il peut ou non retourner à Saint-Just-de-Bretonnière, ça semble pas faire de problème de ce côté-là. C'est pas pour ça qu'il retourne en dedans, c'est parce qu'il n'a pas respecté une des autres conditions. Mais moi, ce que je te dis, c'est que moi, personnellement, je trouve que c'est inacceptable. On permet à un individu qui a fait autant de crimes aussi odieux, qui a été violent, qui est agressif souvent au bout d'une arme, que cet individu-là, même s'il a purgé sa peine ou à peu près, on l'autorise à retourner dans la même région, là où demeurent incidemment plusieurs de ses victimes encore vivantes. Alors moi, je trouve ça inqualifiable, mais c'est pas la première fois que la Commission des libérations conditionnelles du Canada fait la manchette, là. Tu te souviendras de la petite Lévesque, la Marilyn Lévesque qui avait été tuée
ouais.
Dans un motel à Sainte-Foy. Elle avait été assassinée. L'assassin avait été libéré, puis il n'aurait pas dû se promener, puis il avait continué de fréquenter des salons de massage. Puis la commission avait été blâmée à ce moment-là. Puis moi, je peux te dire que j'ai des dossiers de victimes de criminels aujourd'hui qui m'appellent et qui sont scandalisés de voir comment la commission gère ces dossiers-là.
Dans le cas d'Eustachio Galaise, effectivement, là, qui a tué Marilyn Lévesque, la commission Service correctionnel Canada a très mal paru. Mais moi, ce qui me surprend, tu sais, je comprends que les fonctionnaires n'ont pas nécessairement fait le travail, là, puis ça me fâche un peu, mais de voir que Jacques Vachon, qui a commis tous ces crimes-là, puis qui sait pertinemment que ses victimes habitent encore de ce secteur-là, se permet toujours d'aller à cet endroit-là pour y habiter, puis après ça, faire des affaires là-bas, parce que vous l'avez dit, il vend des véhicules usagés aujourd'hui. Je veux dire, qui achète un véhicule à cette pourriture-là? En tout cas, bref, peut-être une question de moralité là-dedans, mais c'est ignoble. Puis Ben là, il retourne en dedans pour combien de temps? Puis là, Service correctionnel Canada nous mentionne que lorsqu'il va être remis en liberté, ben, il y a une ordonnance de surveillance de longue durée de 5 ans qui va permettre à Service correctionnel Canada de le garder à l'œil. C'est rien de rassurant. En même temps, à 77 ans, il représente-tu encore un danger, cet individu-là?
Ben moi, je pense que oui. Je pense qu'il va toujours représenter un danger. J'ai pas lu la décision de la commission des libérations conditionnelles parce que dans l'article de Nicolas Saillant du Journal de Québec, on n'avait pas ça de façon explicite. J'ai l'impression que la décision, comme c'est souvent le cas, considère qu'il présente un risque acceptable, un risque contrôlable, un risque modéré pour la société. Mais tout individu qui a commis des crimes odieux en série comme ça sur plusieurs victimes et sur d'aussi longues périodes de temps constitue un danger. La question, c'est pas ça. La question, c'est qu'il y a une libération qui peut être accordée si tu constitues un danger acceptable pour la société. Et dans ma tête à moi, c'est déjà trop. Ce gars-là devrait rester en dedans, mais on est au Canada, on l'a dit tantôt, là, puis au Canada, c'est comme ça que ça marche. La libération conditionnelle, la peine, l'individu, sa réinsertion sociale, on n'en a que pour les criminels. Alors, les victimes, c'est s'il reste un peu de papier, on va en parler, mais pas du temps, on n'en parle pas. Puis je suis convaincu que dans la décision de la Commission canadienne des libérations conditionnelles, on n'a pas trop élaboré sur la question des victimes. On a considéré que c'est un risque modéré. Il peut sortir. Mais 77 ans aujourd'hui, tu as des gens qui sont quand même assez fonctionnels. Là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas handicapé et il n'est pas grabataire. Là.
Incroyable. Maître Bellemare, là, on va parler d'un dossier. Quand vous m'avez envoyé ça tantôt, lors du souper, je riais de seul à voir que c'est ce genre de cause-là existe. On parle du dossier de Gaël Etemé Lobogo, qui a été victime de harcèlement psychologique dans le cadre de son travail. C'est une décision d'un arbitre du travail qui date du mois dernier. L'arbitre a condamné l'UQAM à verser 4 000 $ à une correctrice qui aurait été exposée à du contenu raciste.
Oui, c'est ça, du 4 000 $. Ça, c'est un arbitre du travail. Un arbitre, là, c'est une espèce de juge administratif en matière de droit du travail. Quand il y a un litige dans l'application de la convention collective, c'est un arbitre qui est désigné et qui est choisi par le syndicat et par l'employeur. Dans ce cas-ci, c'est l'employeur, c'est l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, et cette dame-là agit comme correctrice, et on lui a donné à corriger des textes qui avaient elle était choisie comme correctrice par la chargée de cours, elle n'enseigne pas, et on lui a demandé de faire de la correction. Et dans le cadre de la correction, elle aurait été victime de commentaires racistes de la part de certains élèves qui disaient que, elle avait un drôle de français, c'est un français de France et non pas un français québécois, qu'elle avait été trop sévère,
Le cours qui est au centre du dossier, là, c'est un cours qui s'intitule « Introduction au féminisme noir » et cette histoire-là remonte à 2018-2019 et c'était assuré par l'Institut des recherches et d'études féministes de l'UQAM, mais c'était accessible aux étudiants de tous les programmes d'université et on dit que la relation entre, d'une part, les étudiants et, d'autre part, la chargée de cours et la correctrice s'est dégradée après un examen de mi-session dont les résultats étaient particulièrement faibles. Et on dit que la correctrice, avec toutes les réponses qu'elle a reçues, elle a été extrêmement bouleversée.
Mais je ne comprends pas pourquoi elle a accepté la fonction. Il y a une chronique de Richard Martineau aujourd'hui dans le Journal de Montréal, Journal du Québec, qui est tout à fait pertinente et qui dit si elle n'avait pas la capacité de faire ce travail-là, pourquoi elle l'a accepté? Parce que ça n'y a pas été imposé. Là. C'est le chargé de cours qui l'avait choisi. Peut-être qu'elle a été choisie pour sa personnalité, pour sa culture, de façon à ce qu'elle ait une approche un peu plus réaliste au niveau de la correction. Mais tu sais, moi, je trouve ça incroyable qu'on donne une indemnité qu'on considère comme étant du harcèlement, le fait que des étudiants font des commentaires négatifs, surtout à l'UQAM. Ici, il y a une université où il y a des contestataires, c'est bien l'UQAM, là. C'est pas nouveau, ça a toujours été le cas. Et puis, ça fait partie de la culture de cette université-là. Mais moi, je trouve ça incroyable que l'université n'ait pas contesté cette décision-là. Parce que si la décision rendue par l'arbitre est déraisonnable, qu'elle est irrationnelle, qu'elle est inacceptable au plan du droit et des faits, tu peux demander à la Cour supérieure de casser la décision. Mais c'était trop demandé à l'UQAM, parce que tu sais que nos universités de ce temps-là, depuis quelques années, sont très frileuses. L'Université d'Ottawa avec le mot en N, l'Université du Québec à Montréal, dans de multiples situations, ont toujours cédé. On a l'impression qu'ils n'ont pas de colonne, ils ne tiennent pas debout. Moi, je pense que l'Université du Québec à Montréal aurait dû contester cette décision-là. Je trouve ça, pour ma part, tout à fait déraisonnable qu'un arbitre accorde 4 000 à une dame pour harcèlement psychologique dans ce contexte-là. Je pense qu'elle aurait dû refuser la fonction, puis si elle l'a acceptée, ben là, ça fait partie de la job, puis il faut que tu sois capable de supporter les conséquences, les critiques, puis il faut que tu es dans un milieu universitaire, les étudiants se plaignent, c'est normal, mais là, à un moment donné, là, ça va finir où, cette affaire-là?
En même
temps, le monde est harcelé, tout le monde est victime.
En même temps, Maître Bellemare, là, je suis conseiller en communication d'urgence, là, parce que ça existe, ce genre de métier-là, des gens qui sont appelés en renfort quand le feu est pris dans place, là. Puis pour justement qu'on en parle le moins possible de cette affaire-là, puis que l'UQAM s'en sorte mieux, sont aussi bien d'accepter de payer 4 000 plutôt que de dire « Non, on va porter ça en appel. » Ils sont situés, l'UQAM est situé sur l'île au génie, là. Donc, à partir du moment où ils vont dire « Ah non, on pose ce truc-là en appel », c'est sûr et certain qu'ils vont se faire qualifier de racistes, de ci et de ça, puis ils vont se faire attaquer de toutes parts par certains chroniqueurs québécois qui sont un peu plus à l'extrême gauche. Donc, d'accepter de payer le 4 000 plutôt que de porter ça en appel, j'imagine qu'ils achètent plus la paix que d'autres choses. On est rendu là en 2023. Mais bon, pour ce qui est de cette correctrice-là, on dit qu'elle a été bouleversée par les réponses dans les examens. Ça a été extrêmement dur pour elle. Même l'une des copies allait trop loin. Selon l'arbitre, là, on dit que l'étudiant avait farci littéralement son texte de qualificatif animalier, en particulier canin, pour illustrer son propos à propos d'Aunt Jemina, qui, selon l'auteure afro-américaine Patricia Hill Collins, est le stéréotype de la femme noire, serviable et soumise. Il mentionnera qu'elle fait partie de la famille comme le chien, s'agissant de la figure mythique de la nounou qui n'existe pas vraiment, mais qui est uniquement fantasmée par la majorité blanche. Il affirme comme le chien du domicile auquel est parfois comparée la nanou. Les afro-américaines peuvent mordre et refuser ce rôle. C'est ce qu'il avait mentionné. Et ça, là, ça l'empêchait de dormir le soir. Elle a mentionné que c'était une conduite vexatoire.
Oui, mais ça, c'est le problème d'un étudiant qui pourrait être sanctionné. C'est une autre affaire, là. T'sais, un étudiant peut être sanctionné pour des propos racistes. Je comprends que l'étudiant n'a pas le droit de dire ça, mais que ce soit l'université qui paye pour ça, j'en perds mon latin. Puis je te dirais que c'est vrai que la question financière fait en sorte que c'est plus facile de payer 4 000
ben oui.
Que d'aller devant les tribunaux en cour supérieure, c'est évident. Mais à un moment donné, il y a une question de principe. C'est qu'on laisse aller ça, puis à un moment donné, c'est d'autres accommodements, puis des indemnités, puis des harcèlements. Tout le monde est harcelé, puis le harcèlement, le dos large. Moi, je trouve que ça va trop loin, personnellement. Puis je pense que ce cas-là aurait dû faire l'objet de contestation, mais l'Université du Québec à Montréal, c'est des mous. Ils laissent tout passer, puis ils achètent la paix. C'est pour ça que c'est comme certaines universités. Mais l'Université Laval, avec ses concours du fédéral là, qui interdisent à l'homme blanc de postuler, là,
pas mieux.
C'est aussi niaiseux. Là.
Ouais.
L'Université d'Ottawa, avec le mot en haine, c'est aussi niaiseux. Mais c'est ça. Je trouve que nos universités n'ont pas de colonne et ils se laissent barouetter par à peu près tout le monde. La mode woke est très présente là-bas. Et on a l'impression qu'ils ne sont pas capables de se tenir debout devant les revendications tout aussi farfelues les unes que les autres dans ce domaine-là. Et moi, ça m'inquiète parce que je me dis, les universités, c'est des institutions financées par nos impôts. C'est des institutions importantes. C'est un peu toutes les sciences relèvent des universités. C'est le haut savoir au Québec. Et je regarde comment ils se comportent, comment ils sont dirigés, puis je trouve ça inquiétant. Personnellement, là, il y a plusieurs exemples qui se sont ajoutés depuis 2022, puis cette affaire-là vient en rajoutant encore plus. Ça veut dire que si tu corriges les examens et que les étudiants font des commentaires négatifs, puis je pense qu'il n'y a pas un seul prof d'université qui corrige ou correcteur à l'université qui corrige des copies qui ne fera pas face à des critiques de la part des élèves, qui trouvent que c'est trop sévère, qu'il n'aurait pas dû leur enlever des points, qu'il n'aurait pas dû ci, qu'il n'aurait pas dû ça. Puis des fois, ça va jusqu'à des menaces de violence. Mais à un moment donné, il faut vivre là-dedans. C'est des jeunes adultes ou des ados avancés à l'université. Là, tu rentres là à 17-18 ans. Alors, à un moment donné, il faut vivre avec sa clientèle. Puis moi, je comprends pas comment on peut verser 4 000 $ à une dame dans ce contexte-là qui se dit harcelée puis racisée. Là, pour moi, ça dépasse les limites, mais qu'est-ce que tu veux? On est rendu là. Il y a d'autres exemples, hein, mais sans... Celui-là est difficile à supporter.
Oui. Tu sais, à partir du moment où on accepte... On accepte beaucoup trop les gens intolérants. On écoute maintenant les gens qui sont constamment intolérants, tandis qu'avant, on était intolérants envers les intolérants. Puis je trouvais que ça avait un peu plus de bon sens. Quand c'était trop exagéré, on disait aux gens, à ces gens-là de s'asseoir. Maintenant, on les écoute, on tend l'oreille en ayant un peu d'empathie pour ces individus-là. Puis en bout de ligne, bien, c'est la société qui écope parce que ces gens-là sont des extrémistes de gauche. Ces gens-là ne seront jamais vos amis. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est de faire avancer leur propre cause à eux. Maître Bellemare, le temps file. Le temps passe vite en bonne compagnie. On va faire une courte pause. J'invite les auditeurs à discuter avec nous s'ils ont des questions. Je rappelle qu'on est avec Maître Bellemare de chez Bellemare Avocat. Maître Bellemare est disponible sur le web, bellemareavocat.ca. Si vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021. On fait une courte pause, puis on revient tout de suite après.
Marceau, le soir.
À Boulevard 102.1, on sait ce que c'est d'avoir...
Marceau, le soir. Marceau, le soir.
Le soir. 418-971-1021. Ce soir, on est avec Maître Marc Bellemare qui est au bout du fil. Maître Bellemare, vous êtes toujours là?
Oui, tout à fait.
Merci d'être là. Les auditeurs apprécient beaucoup votre présence sur les ondes de Boulevard. Maître Bellemare, cet après-midi, je discutais avec un gars que j'aime bien, Benoît Terrien de Truck Stop Québec. Puis lui, ben, il s'en allait destination sud et des retards, il y en a encore. Il y en a eu quelques-uns pendant le temps des fêtes. Et moi, dans mon cas, je peux vous dire que j'ai eu un méchant 2 minutes quand je me suis aperçu que mon avion avait complètement disparu. Mon numéro de vol n'existait plus et pendant 3 jours, j'étais dans l'incertitude avec Sunwing. Je comprends qu'il y a d'autres transporteurs qui ont été touchés. J'ai entendu parler d'Air Canada et tout ça, mais Sunwing a fait beaucoup la manchette dans les dernières semaines. Et de savoir qu'il y a des gens qui sont un peu pognés encore, que ce soit au Mexique, que ce soit en République dominicaine ou ailleurs, je trouve ça particulier. À chaque année, on dirait que c'est un sujet qui revient. C'est récurrent, là, des gens qui sont pognés dans le sud. C'est une situation qui est... Tu sais, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais là, vous aviez juste à pas partir, vous n'auriez pas eu ce problème-là. » Savez-vous quoi? Vous avez entièrement raison. Mais une fois qu'on part, on s'attend à être ramené par notre transporteur. Et parmi tous ces voyages-là, ben, il y a des agents de voyage qui n'ont pas nécessairement été capables de rendre le service qui, au départ, était supposé rendre, c'est-à-dire d'accompagner le voyageur qui faisait affaire avec eux. Il y a plein de gens qui m'ont rapporté qui faisaient affaire avec des agents de voyage, Maître Bellemare, qui étaient au Mexique, qui tentaient de rejoindre leur agent de voyage. Puis l'agent de voyage, ben, il n'était pas disponible pour eux. Écoute, moi, je t'ai vendu le voyage, je t'ai vendu la destination, maintenant, organise-toi. C'est une situation qui est anxiogène et qui peut être extrêmement choquant, là.
Oui, parce que, ben, écoute, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font plus affaire avec les agents de voyage. De plus en plus, c'est une industrie qui tend à diminuer. Je ne sais pas si à la faveur de la pandémie, ça a repris. Moi, j'ai l'habitude de faire affaire avec des agents de voyage quand je vais en Europe. Les voyages au sud, c'est un petit peu plus... je fais ça souvent moi-même parce que c'est plus facile. C'est des destinations qui sont proches. Maintenant, si vous faites affaire avec un agent de voyage, bien, vous avez un recours contre l'agent de voyage. Pas tout le temps, là, mais il faut quand même prouver qu'on n'a pas reçu les services auxquels on s'attendait. Par exemple, vous avez perdu des journées de salaire à cause qu'un vol est annulé. Ça, bien, c'est l'agent de voyage qui peut être responsable de ça, conjointement avec le transporteur. Alors, si vous avez des recours en justice, que ce soit aux petites créances ou ailleurs, vous avez le droit de poursuivre l'agent de voyage qui vous a vendu le billet conjointement avec le transporteur ou simplement l'agent de voyage qui, lui, va pouvoir se retourner contre le transporteur. Mais si vous avez fait affaire directement avec Air Transat ou Air Canada ou Sunwing, Sunwing qui est en mode pas mal de ce temps-là, ça n'a pas trop bien été pour eux autres dans le temps des fêtes, bien là, c'est la compagnie directement à qui vous vous adressez. Puis là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Je ne vous dis pas que le tribunal n'a pas le pouvoir de sanctionner un transporteur aérien qui n'a pas fait sa job. Mais le plan de voyage, l'avantage, c'est que lui, il vous vend généralement un forfait. Il va vous vendre un transport aérien, puis il va vous vendre aussi un hôtel. Il va vous vendre un tout inclus. Il va vous vendre un transport entre l'hôtel et l'aéroport. Alors, si vous arrivez là et vous n'avez pas le service auquel vous attendiez, si c'est pas le bon hôtel ou si c'est pas une qualité d'hébergement acceptable à la hauteur de ce qu'on vous a vendu, ou si le transporteur ne fait pas sa job, ou si l'avion est en retard ou quoi que ce soit, bien, vous avez un recours contre l'agent de voyage. Bien, encore faut-il qu'il y en ait un. Alors, toi, je ne sais pas, tu fais ça avec des agents de voyage ou tu fais affaire directement avec le transporteur?
Oui, bien, en fait, moi, j'avais mon agent de voyage qui m'a accompagné du début jusqu'à la fin, même quand je l'ai appelé pour lui dire que mon numéro de vol avait complètement disparu de la carte. Là. Elle a pris les choses en main, puis elle a communiqué avec l'hôtel pour essayer de faciliter les choses pour qu'on puisse avoir des chambres. Cela dit, c'était toujours fatigant parce qu'à chaque jour, on se faisait mettre dehors de notre chambre d'hôtel à midi sans savoir si on allait avoir une chambre d'hôtel pour le soir ou si on allait devoir déménager d'hôtel. Il y en a qui vont dire ouais, c'est pas des gros problèmes, là, t'es en sécurité, vous avez entièrement raison. Mais c'est juste que t'as hâte de revenir à un moment donné là, quand tu passes tes journées dans le hall d'hôtel à côté de ton passeport. Pas te le faire voler.
Ben, surtout que si tu quittes pour midi, ben midi, ça s'adonne que c'est un peu le meilleur moment de la journée quand tu es dans le sud. Là.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, on donnait nos bagages au bellboy, puis lui, il s'occupait de mettre ça en sécurité, mais c'est plus le bagage à main dans lequel tu as ton passeport puis ton argent que là, il fallait que tu survives. Donc, nécessairement, si tu étais à la piscine, tu n'as pas la conscience tranquille. Il faut que tu watches toujours ton fameux bagage à main. Là.
Oui, c'est ça. Puis avec l'agent de voyage, ce qui est important, c'est que les services auxquels vous attendez et pour lesquels vous avez payé soient bien précisés dans le contrat. Les horaires d'avion, c'est généralement assez précis, mais le type d'hôtel, la qualité des chambres, les chambres supérieures, des chambres de qualité, en tout cas, il faudrait que ça soit marqué sur la facture pour que vous puissiez avoir une prise. Si jamais vous arrivez là-bas, vous n'avez pas le service auquel vous attendiez, ça vous a causé des dommages, ça vous coûte, je ne sais pas moi, 4 000 $ ou 5 000 $ pour faire votre voyage, puis vous avez l'impression que vous avez subi un paquet d'inconvénients sur place parce qu'on ne vous a pas donné la qualité de service auquel vous attendiez, bien, vous pouvez réclamer à l'agent de voyage une réduction, un montant qui correspondrait à la réduction souhaitée. Puis à la limite, s'il ne veut pas vous le donner, vous avez un recours devant la division des créances, qui est une division de la Cour du Québec qui entend les causes de 15 000 $ et moins. Alors, ça existe et c'est sûr que si vous n'avez pas d'agent de voyage, vous pouvez le faire directement contre le transporteur. Mais là, c'est évidemment un petit peu plus compliqué. Et puis, vous perdez la possibilité d'avoir un recours contre l'agent de voyage qui est tout près de vous, finalement.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'il y a un devoir d'accompagnement aussi. Quand ça va pas bien, vous avez raison, Yannick, quand tu es pris là-bas, là, communiquer avec Sunwing, là, et dire hey, j'ai pas la chambre que je souhaitais ou j'ai eu du retard dans mon avion ou j'ai eu des problèmes dans le transport, Sunwing n'est pas nécessairement responsable des chambres d'hôtel. Là. Alors, puis essayer de rejoindre des transporteurs aériens qui se foutent de notre gueule la plupart du temps, c'est. Moi, écoute, depuis que ça a repris après la pandémie, je trouve que ça n'a pas de bon sens, la qualité de service qu'on a. Moi, je n'ai pas eu trop de problèmes, mais il y a beaucoup, beaucoup d'insatisfaction. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent prendre des vacances puis qui ne sont pas satisfaits. On n'a pas la qualité de service qu'on avait il y a 10-15 ans, là, c'est évident.
Maître Bellemare, je gardais un petit dessert pour la fin. Je voulais qu'on parle, vous et moi, des farfadets. Qui sont ces farfadets-là qui disent avoir une belle philosophie de vie, qui prônent l'amour fraternel, le don de soi, le partage, la compassion, l'entraide. Ces gens-là, les farfadets, luttent contre les injustices sociales et les préjudices qui s'en suivent. Si vous êtes d'avis que nos gouvernements ne travaillent pas pour le bien-être du peuple exprimé, exprimez-vous et affichez-vous comme étant « je suis un farfadet ». Ben, des farfadets ont décidé de bloquer le pont tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine en mars 2021 et c'était pas la meilleure des idées qu'ils ont eues.
Oui, c'est ça. Mais là, il y en a un qui a plaidé coupable aujourd'hui à Montréal. Ils sont 5 accusés. Il y en a un qui a plaidé coupable. Ils n'ont pas d'avocat. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'avocat qu'ils sont intéressés à les représenter? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour les payer? Est-ce que c'est par principe qu'ils ont décidé de faire le show directement puis de, d'agir directement parce que, comme tu le sais, c'est pas nécessaire devant une cour de justice d'être représenté par avocat. La plupart des gens le font parce que c'est compliqué devant les tribunaux, puis il y a des règles à suivre, puis il y a des lois. Mais n'importe qui peut se représenter seul, même devant la Cour suprême du Canada, même si dans certains cas, les juges vont trouver que c'est souhaitable qu'il y ait un avocat qui soit l'intermédiaire. Mais dans ce cas-ci, ils sont cinq, et il y en a un cet après-midi à Montréal qui a plaidé coupable à des accusations de méfaits.
Ouais, mais quand, méfaits, tu dis, quand tu dis être pour le peuple, là, puis tu t'en vas bloquer un pont ou un tunnel là, dans lequel tu sais pertinemment que tu vas créer des problèmes à des gens qui sont des contribuables, des honnêtes citoyens qui veulent travailler tout simplement, puis que toi, tu le, à cause de tes gestes pendant 5, 10, 15 minutes, ben ça retarde la circulation de 2, 3, puis 4 heures parce qu'il y a des gens qui sont dans leur véhicule et qui sont pas capables d'avancer. T'es pas pour le peuple, t'es juste un cave.
Oui, c'est sûr, mais c'est le tunnel Hippolyte. Écoute, c'est quand même une des principales voies d'accès à l'île de Montréal. Il y a des vidéos, clairement, qui ont démontré qu'ils avaient bloqué le pont. Je pense qu'ils n'ont pas grand-chance de s'en sortir avec ça. Mais écoute, c'est une infraction au code criminel. Les accusations de méfaits publics, là, ça peut être dans des cas d'une Tu fais en sorte que les gens ne puissent pas profiter d'un bien public. Tu empêches les gens de profiter d'un bien public. Dans ce cas-ci, c'est le tunnel. Compte tenu que c'est plus que 5 000 $, mais c'est une peine maximale de 10 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va pogner 10 ans, là. Surtout que lui, il a plaidé coupable. Il risque peut-être d'avoir une peine moins sévère, parce que quand on plaide coupable, souvent, c'est considéré comme un élément atténuant. Mais les quatre autres ont décidé de plaider non coupable. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire au juge. Probablement que c'est des éberlués qui veulent à tout prix avoir raison. Mais écoute, c'est quand même, je le répète, là, une des principales voies d'accès à la ville de Montréal, une grande artère de circulation automobile au Québec, peut-être une des plus importantes. Et aller bloquer ça, c'est condamnable. Et moi, je pense que le juge va être extrêmement sévère. C'est pas pour des motifs religieux ou des motifs politiques que tu as le droit de nuire à des individus puis à compromettre la sécurité des individus. On comprend qu'il faut aller de la fontaine, mais on est sous le fleuve, là.
Oui.
On n'est pas dans un une route secondaire dans le fond du bois. Là. On n'est pas dans un chemin de
À travers ça, bon, il y a des contribuables, là, des honnêtes citoyens, mais il y a des ambulances aussi. Les policiers doivent passer, les services d'urgence, les pompiers. Quand on fait ce genre de geste-là, je comprends qu'on ne pousse pas notre réflexion bien loin, mais si on paralyse une ville, on paralyse aussi les services d'urgence qui sont là pour aider le citoyen.
Oui, c'est ça. Non, c'est extrêmement grave. Et moi, écoute, je sais pas, là. Quand tu regardes même le pont Pierre-Laporte, là, ça prend pas grand-chose ici, là, mais quelqu'un qui bloque intentionnellement une artère de cette importance-là, parce que, tu sais, méfait public, ça peut même être aussi une fausse dénonciation à la police. Toute forme de sollicitation d'un bien ou d'une personne, d'une ressource publique, constitue un méfait public. C'est très large. Et on verra bien ce qui va arriver avec ça, mais j'ai l'impression que le juge va être assez sévère. En tout cas, je le souhaite parce que il faut pas que ça fasse tache d'huile. Là, c'est arrivé à Montréal, je comprends ça, mais en même temps, j'ai l'impression que si on se retrouve avec ce genre de comportement-là dans l'avenir, un peu partout, on risque de se retrouver avec des difficultés fort importantes. Puis je pense que les policiers suivent ça de près aussi parce que eux, le ministère des Transports, ils sont en charge de l'application du code criminel. Puis je vois pas comment est-ce qu'on peut laisser passer une affaire comme ça. Mais le maximum, j'ai dit 10 ans tantôt, mais c'est plutôt 5 ans, je pense. Mais ici, on aurait peut-être un beau cas de maximum, là.
Ouais.
D'aller chercher la peine la plus importante compte tenu de l'importance de l'artère de circulation qui est affectée, des motivations quelque peu farfelues des accusés.
Maître Bellemare, je vais devoir vous laisser là-dessus puisque c'est tout le temps qu'on avait, mais je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée ainsi qu'aux auditeurs. Puis je vous souhaite de passer une belle semaine, puis on se rejase lundi prochain.
Merci. Bonne soirée à toi et à tous.
Merci beaucoup. Pour vous retrouver, bellemareavocat.ca.
Absolument. Anytime. Jour et nuit.
Jour et nuit. Salut.
Merci.
Merci. Bye tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir.